bonjour. Et nous allons, nous poursuivons aujourd'hui notre lecture de quelques passages de la précieuse corbeille de Motoori no Ninaga. Comme vous voyez, il faut trouver la voie suite. J'aurais voulu vous donner l'illustration du lotus bleu de Tintin, mais j'ai peur de que, comme c'est publié, il peut y avoir des histoires de droit, donc je ne l'ai pas fait. Alors, nous continuons donc sur la voie. Et non pas qu'il faille s'attendre, comme vous le savez, à une réelle définition de la voie de la part de Motoori no Ninaga. Je pense que nous y reviendrons un peu si nous avons le temps aujourd'hui et surtout dans la dernière leçon de conclusion. Mais cela nous permettra de saisir un peu mieux la façon dont il se livre en réalité à cette pratique indéfiniment répétée qui est au cœur de la philologie japonaise, comme je l'ai intitulé, c'est-à-dire c'est le décalage ou l'altération des concepts chinois, leur transfert dans la langue japonaise à l'intérieur d'un nouveau contexte, contexte lui-même fruit d'un processus tout aussi long et savamment mené. Tout cela n'est pas fait par hasard, il y a une constante dans l'esprit de ces lettrés japonais, il y a en musique de fond, je dirais, il y a toujours la culture lettrée chinoise qu'ils remanient, qu'ils décalent, qu'ils font leur, en quelque sorte. Et le fruit de cette démarche est un univers langagier recréé, où tout semble original, ancré dans une tradition immémoriale autochtone, où la langue japonaise, rendue à sa pureté originelle, peut exprimer ses vérités antiques et éternelles. Tout cela est bien sûr, vous le comprenez, à prendre au second degré. C'est le but que se donnent ces kokugakusha. Mais évidemment, nous ne sommes pas, supposés les suivre. En tout cas, c'est la voie véritable, Makoto no Michi, que mentionne Norinaga à de nombreuses reprises, que nous allons revoir ici, et qu'il applique à la véritable tradition japonaise qu'il restaure grâce à ses recherches philologiques. Alors cette loi véritable, vous voyez, ce Makoto no Michi est en réalité, pour vous donner une illustration de ce que je viens de dire, Makoto no Michi, c'est la kundoku, c'est pas la lecture explicative japonaise de deux termes, de deux composés chinois, soit shindo, à ne pas confondre avec Shinto, bien sûr, Shindo ou Jitsudo. Les deux sont très fréquents en chinois, le premier bien plus que le second. Janda, en chinois, est encore couramment utilisé. Enfin, c'est un mot de tous les jours, n'est-ce pas, qui veut dire la vraie voie, mais qui veut dire la réalité ou vraiment. C'est simplement une expression grammaticale. Jitsudo, qui veut dire la voie réelle, la voie de la voie réelle ou la voie de la réalité. Les deux, donc Shin et Jitsu, peuvent se dire Makoto, n'est-ce pas, Makoto no Michi, avec des nuances un peu différentes. Et le Jitsudo, la seconde voie de la réalité, se trouve en particulier dans un recueil de poèmes sino-japonais, donc de kanshi, fait par des japonais des kanshi du 8e, 9e siècle, qui est le keikokushu, n'est-ce pas ? Et on voit le mot jitsudo apparaît, donc ce sont de vieux mots. Et je reviendrai bien sûr dessus à satiété, mais n'oubliez pas que Makoto, bien sûr, Makoto veut dire la réalité, la vérité, la sincérité, n'est-ce pas, tout dépend du caractère avec lequel on écrit, mais ici je ne vais pas vous en entretenir. Essayez un instant de faire de l'étymologie immédiate, n'est-ce pas. Makoto se divise immédiatement en Makoto. N'est-ce pas ? Ma qui veut dire vérité, véritable, vraiment, etc. Koto qui veut dire deux, qui a deux grands sens en japonais, la chose abstraite et la parole. C'est dans ce sens de koto, de parole, c'est sur ce sens de koto, parole, qu'insiste indéfiniment, constamment, notre ami Norinaga. Donc Makoto veut dire parole vraie parole. Lorsqu'il parle de Makoto no Michi, nous peut-être pas, mais Norinaga entend la voix des vraies paroles. Alors, entre parenthèses, si vous vous livrez au même petit exercice que je viens de montrer ici, Shindo, n'est-ce pas, la Makoto no Michi, mais si vous mettez maintenant vraie parole en expression en kanji, ma c'est shin, c'est le même caractère, parole c'est gen, gon, makoto égale shingon. Peu de gens, c'est-à-dire les dharani, les mantras, peu de gens pensent à ça, mais dans la mentalité de nos lettrés japonais de l'époque, ce jeu, ce va-et-vient constant entre les caractères et les termes, les caractères chinois et les termes japonais étaient obligés presque. Et n'oubliez pas, je vous ai dit que derrière tout ça, nous avons, derrière Norinaga, derrière la grande tradition des Kokun Akusha, nous avons le travail de Keichu, Keichu qui était moine, justement, Shingon. Bon, je ne dis pas que c'est cela, mais je vous dis qu'il y a des liens non pas cachés, qui sont devant tout le monde, mais qu'on ne fait jamais à cause de la séparation des genres, des doctrines et des religions. Donc la voie véritable que mentionne Norinaga, et c'est la véritable tradition japonaise qu'il restaure grâce à ses recherches philologiques, mais ce Makoto, cette voix véritable, c'est la voix de la parole vraie. Et d'ailleurs, remarquez que le travail essentiel de Norinaga, c'est l'étymologie, en quelque sorte. Il retrouve les vieux sens, les sens originaux japonais. Or, étymologie, comme vous le savez, est traduit en latin par veriloquium, n'est-ce pas, c'est-à-dire la parole vraie. Voilà, bon, vous voyez jusqu'où on peut aller. Je ne veux pas vous dire que Norinaga connaissait le latin, mais c'est simplement qu'il y a des sortes de d'associations d'idées qui se font presque naturellement dans un contexte de philologie sacralisante, en quelque sorte. Évidemment, Norinaga est trop fin philologue pour ignorer les rapports profonds de ces termes avec leurs origines chinoises. Et il doit donc s'en expliquer sans bien sûr reconnaître un quelconque rapport de dépendance. Et c'est cette question qu'il aborde de façon un peu longue dans le paragraphe 410 que nous avons ici, de la précieuse corbeille. Ceux qui n'ont pas encore le texte japonais peuvent venir le prendre ici, si vous voulez. Donc, ce paragraphe qu'il a intitulé, c'est le 410, c'est pas la page 228, qu'il a intitulé « Des ressemblances qui existent entre la voix véritable, Makoto no Michi, et les idées exprimées, Tokigoto », vous voyez toujours « koto », n'est-ce pas, ici, et par Lao Tzu en Chine, vous voyez, « Morokoshi no Roshi no Tokigoto, Makoto no Michi ni nitaru tokoro aru koto ». Voilà, nous en sommes donc... là. Et nous allons lire quelques... C'est un paragraphe assez long qui enjambe les deux pages, et nous lirons ensuite le paragraphe 411 auquel j'ai rajouté très maladroitement quelques signes qui étaient sur la page suivante. Alors, voici ce que dit Norinaga. Norinaga, excusez-moi, cette marque de lait très célèbre autrefois me persécute encore. Donc, il va essayer de montrer que les ressemblances qui sont, on en parlera un peu, qui sont visibles entre certains termes ou certaines idées de Lao Tzu et les siennes, eh bien, il ne les nie pas, mais selon lui, elles sont fortuites. C'est ce qu'il va essayer d'exprimer, et il va en profiter pour donner une petite, esquisser une théorie générale. Donc, il s'en trouve un certain nombre, Karekore Adi, dans la clique de la mentalité chinoise. Je traduis Tomogana par la clique ici, parce que vous voyez qu'il ne les a pas en haute estime. Donc, les Karagokoro no Tomogana, c'est tous ceux, ce sont tous les lettrés japonais qui singe la Chine, en quelque sorte. Donc, il s'en trouve dans la clique de la mentalité chinoise pour estimer que l'élucidation et l'exposé de la teneur de la voix véritable auquel je me livre à présent. Et vous voyez, il dit bien ici ce qu'il fait, n'est-ce pas, c'est vraiment... C'est, Makoto no michi no omomuki o miyakiramete toki awaseru. C'est ainsi qu'il définit son action. C'est une action d'élucidation et d'exposé. Il tire au clair de vieux textes. C'est vraiment la philologie. Alors donc, l'élucidation à laquelle je me livre se fonde sur les idées exprimées par un certain Lao Tzu, Roshi to Yumono, n'est-ce pas, de ce pays-là. Vous voyez qu'il... Or, il suffira de la comparer avec cette Makoto no Michi, n'est-ce pas, son élucidation plutôt. Il suffira de la comparer avec les commentaires étrangers, Adachi no Tsushaku Domo, pour se rendre compte de ce que la teneur, Omomuki est un mot qu'il répète constamment, vous l'avez déjà remarqué, n'est-ce pas. Pour lui, il essaye de dégager et c'est un mot dynamique en même temps, Omomuki, il essaye de dégager la dynamique des textes anciens. De ce que la teneur de mes explications n'est pas entremêlée de la moindre afféterie personnelle, sakashira, watakshi no sakashira, et qu'elle est telle qu'elle se découvre, mietaru mama naru, dans les saintes écritures chinoises, dans les saintes écritures divines, c'est-à-dire kami no mifumi. Et bien évidemment, le sakashira est un mot aussi qu'il affectionne. Vous avez vu que Norinaga a un vocabulaire tout près. D'ailleurs, ça explique un peu le côté répétitif de son travail. Et sakashira, qui veut dire le fait de jouer l'intelligent, en quelque sorte. Et je le traduis par la fêterie, les mignardises. Et c'est ainsi qu'il définit tout ce qui est chinois. Les Chinois coupent les cheveux en quatre, en quelque sorte. C'est ce qu'il appelle sakashira. Lui est partisan de la pureté originelle, n'est-ce pas, du makoto, justement, les mots véritables qui sont authentiques, qui sont tels quels, bruts de décoffrage, en quelque sorte. Et les sakashira, ce sont des décorations inutiles. Il emploie aussi, vous souvenez, la semaine dernière, nous avions vu le mot de kazari, n'est-ce pas, les décorations. Donc, ça n'a rien à voir, dit-il, avec ce qu'il dit. On retrouve la préoccupation de Norinaga de ne pas apparaître comme voulant élaborer une doctrine individuelle, une sorte de fiction philologique. C'est le sens de watakushi. C'est aussi un terme qui revient très souvent dans sa bouche. Watakushi est toujours négatif. Et vous vous souvenez qu'il se défendait, nous allons revoir ça tout de suite, il se défendait de créer quelque chose, il transmet la voix. Nous l'avions déjà dit la dernière fois, lorsqu'il dit qu'il transmet la voix, tsu etaru, omomuki o tsu tutau, eh bien, il ne fait que reproduire, comme je vous l'ai dit la dernière fois à la fin du cours, il ne fait que décaler, encore une fois, la célèbre parole des entretiens de Confucius, Longo, n'est-ce pas, que je vous donne ici, et d'ailleurs qui est intéressante à voir dans ce contexte-ci, parce qu'il l'a certainement en tête, évidemment, lorsqu'on dit des choses comme ça, et qu'on est japonais au XVIIIe siècle, on ne peut qu'avoir le Longo en tête. Donc, nobete tsukurazu, je transmets... Et c'est Confucius qui parle, mais Norinaga pourrait dire la même chose. Je transmets et je ne parle pas, et je ne crée pas. J'ai confiance et je me délecte, j'ai une prédilection pour l'Antiquité, Inishi Okonomu, et Shisokani, Wanga Roho ni Shisu. Et personnellement, pour ma part, alors évidemment, c'est ce que ne veut pas reconnaître Norinaga, je me compare à Lao Tzu et Peng, nous le laissons de côté, mais vous voyez qu'il y a Lao Tzu ici, et lorsque Norinaga fait nous dit cette idée selon laquelle il ne crée pas, il repense à cette partie de Confucius et à la comparaison que l'on fait avec Lao Tzu. Ainsi donc, le fait qu'il prétende, je reprends Norinaga ici, ainsi donc, le fait qu'il prétende fort légèrement, n'est-ce pas, yukuri naku, sans raison valable, constatant dans mes écrits, sous-entendu, dans la teneur de mes écrits, quelques ressemblances fortuites avec les propos du dit Lao Tzu, tamatama kano roshi to iu mono no koto to nitaru tokoro dokoro wo miru, n'est-ce pas, constatant cela, qu'il soit fondé sur eux, et constate, en prétendant donc qu'il soit fondé sur eux, solene iorite ieditowa, c'est bien la réflexion d'un esprit aberrant, higa kokoro, encore une fois le higa, higa, n'est-ce pas, higa goto, higa kokoro, obsédé par cette idée obsessionnelle, n'est-ce pas, shita omomuki ni omoi toreru, selon laquelle il ne saurait y avoir nul pays en dehors de la Chine et que rien ne pourrait exister sans elle. Kano kuni narade wa nanigoto mo hajimaranu koto. Voilà, donc c'est, prétendre qu'il s'appuie sur Lao Tzu, c'est simplement le fait de gens qui ne peuvent pas imaginer qu'on puisse dire quelque chose d'intelligent sans s'appuyer sur la Chine. On peut à partir de là presque prédire la suite, mais Norinaga est lancé et nous ne pouvons plus l'arrêter. Apprécions au moins la longueur de cette phrase, je vous la donne aussi comme excellent exemple, où il esquisse une théorie générale sur l'origine de la voix. Depuis l'Antiquité, dans les différents pays aussi, kuniguni nimo, qui n'avaient nulle relation avec la Chine, n'est-ce pas ? Alors, le mot de kayo, ici je l'emploie dans le sens d'avoir des relations, mais kayo veut dire, kayo est la lecture japonaise d'un caractère chinois qui est trong en chinois, tsu, n'est-ce pas, tsu, c'est-à-dire toru, c'est-à-dire communiquer entre. C'est un terme qui se trouve très souvent aussi dans les textes bouddhiques, c'est la communication entre deux doctrines aussi. D'une doctrine, on passe à une autre. C'est tout ce sens exégétique qu'il y a derrière le mot kayo. Alors, donc depuis l'Antiquité, dans les différents pays aussi qui n'avaient nulle relation avec la Chine, et n'en avaient même jamais entendu parler, ni L2, n'est-ce pas, c'est-à-dire Tagai ni Kikimo Yobazarishi, chacun selon son ordre, Hodo Holo Ditsketsu, donc selon ses possibilités, chacun selon son ordre était venu dès l'origine à l'existence tout ce qui pouvait exister. C'est-à-dire qu'il reprendra cette idée un peu plus tard, il y a dans la création originelle tout a foisonné en même temps. Mais c'est tout spécialement le royaume, n'est-ce pas, Mikuni, c'est-à-dire le Japon, qui est le royaume au fondement de tous les pays. Yorozu no kuni no moto. Le Japon est l'origine du monde et l'ancêtre de tous les pays. Oya, n'est-ce pas? Et de ce fait, la voie véritable en sa justesse, Tadashiki Makoto no Michiwa, parmi tous les pays et royaumes, ne s'est transmise que dans notre seul empire, Tada Mikuni, ou bien Subera Mikumi, Mikuni, n'est-ce pas, ni Koso Tsutawadi Tare. Et comme elle ne s'est point transmise aux pays étrangers, ils ne peuvent la connaître. Donc c'est impossible que Lao Tzu puisse sciemment, disons, refléter la voix, puisque seul le Japon a transmis la voix dès l'origine. Et on peut alors imaginer ce que vaut la voix de Lao Tzu. Mais en Chine, se nommer Lao Tzu fut probablement personnage d'une intelligence exceptionnelle, Sugurete Kashikoku, et profondément perspicace, Tadorif Kakishito. Mais son enseignement qui jouit dans le monde d'un éclat si exagéré, n'est-ce pas, Yono Kochitakusa Kashi Dachitaru Oshiewa, n'a que l'apparence extérieure de la justesse. Uabe Koso Yoroshiki Ninitare. C'est à la surface. Alors qu'en réalité, Makoto, encore une fois, il n'en est rien. Yoroshikarazu. Son enseignement, donc, de Lao Tzu, n'a qu'un clinquant de surface qui fait présager une profondeur de réflexion. Mais nous sommes encore loin du compte. C'est pour ainsi dire par hasard qu'il arrive à des idées justes. Et je vous recite encore Norinaga. Prenant conscience d'un certain nombre de difficultés, nakanaka no monosokonai to narukoto o satorite, une réflexion erratique et personnelle, encore une fois, n'est-ce pas, hashibashi, Mizukara kangai detaru koto. Mizukara ressemble un peu à watakushi, de soi-même. Ça ne se fonde pas sur une tradition immémoriale. C'est quelque chose qu'il a inventé. Alors, c'est donc une réflexion erratique et personnelle par laquelle il a estimé être ce qui devait être la voie véritable. Makoto no michi wa kakukoso arubeki mono nare. Hein, c'est ce qu'il pense. Et là-dedans, au terme de ses réflexions, alors kamukae, vous voyez le mot kamukae, c'est une forme que Norinaga affectionne pour kangaete, n'est-ce pas? Kamukae, c'est kangau. Il s'est trouvé des points de rencontre, n'est-ce pas, aeru fushi, ressemblant par hasard, tamatama, à la voie véritable, encore une fois. Et certes, la voie véritable est la voie telle qu'elle fut fixée par les dieux, sumera no kami, n'est-ce pas, sumekami, originellement, sans fioritures ajoutées par les hommes. Encore une fois, shito no sakashira wo kuwaetaru koto naku, les fioritures à la chinoise. Et de ce fait, pour en exposer la teneur, son exposé répugne aux fioritures. Sakashira, n'est-ce pas, encore une fois. C'est-à-dire qu'il Lao-tzu, dans le tas, si vous voulez, parmi tous les philosophes chinois, c'est celui qui fait le moins de d'affaîtrie rhétorique, en quelque sorte. Et c'est lui qui a le moins de fioritures. Et c'est pour ça qu'il ressemble à Norinaga. Ce qui fait qu'il s'agit d'un principe qui aura naturellement Onozukara. Onozukara, qui l'emploie très souvent dans le sens de spontanéité, naturelle, etc., et qui est à contraster avec le Mizukara. Le Mizukara, c'est l'action transitive de quelqu'un qui bricole quelque chose. Onozukara, ça naît spontanément. Et donc, ce sera naturellement des ressemblances, Nitaru Koto, et des points de rencontre, Aeru Tokoro, avec la voix véritable. Voilà, donc. C'est une réflexion personnelle donc, qui a mené Lao-tzu à la prise de conscience des difficultés dans le monde qui l'entourait. Et sa perspicacité indéniable l'a mené à l'intuition de la voie véritable, intuition qu'il a développée et exposée en évitant les défauts inhérents aux penseurs chinois, qui sont les fleurs de rhétorique, c'est Sakashira. Cette simplicité d'exposé le rapproche en conséquence de la simplicité divine, Sumera no Kami, n'est-ce pas, de la voie véritable japonaise. En cela, au moins, Norinaga se rapproche avec Tominaga Nakamoto. Vous savez que je vous ai déjà parlé de plusieurs fois de lui, qui devance. Il est mort à peu près au moment où Norinaga naissait. Il est mort à une trentaine d'années. Et il avait fait ces deux livres dont je vous ai déjà entretenu. Je ne vous parlerai ici que de ce. Je reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, mais je ne pense pas. Son livre le plus court qui s'appelle Okina no Fumi, les paroles d'un vieillard, les paroles du vieillard, dans lequel il compare les trois voies existant au Japon, le confucianisme, le bouddhisme et le shintoïsme. Il est tout aussi dévastateur à l'égard des trois, d'ailleurs, à la différence de Norinaga, qui lui en privilégie une, comme vous le savez. Voici donc cette citation de Tominaga Nakamoto, qui, entre parenthèses, a un style bien plus vivant et agréable à lire que Norinaga, qui est toujours un peu pompeux. Ici, j'ai traduit kusé, le kusé de la première ligne par prédilection, mais c'est plus que prédilection, c'est la manie, la manie, n'est-ce pas? Donc le tic maniaque, le toc, on dirait maintenant. Mais, donc, mata judo no kusé wa bunjinari, n'est-ce pas? Alors, pour ce qui est du confucianisme, sa manie va à la rhétorique. La rhétorique, c'est imano benzetsunari. La rhétorique, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'éloquence. Les gens de la Chine en raffolent. Et si l'on n'y excelle pas pour exposer son enseignement, il refuse d'y porter foi. Ainsi, lorsque Confucius prône la... Ainsi, lorsque Confucius prône la bonté, n'est-ce pas, Jin, la bonté humaine, Sang-tzu, la bonté et la justice, Zhu-su, encore un maître, la sincérité, lorsque Mencius expose les quatre principes et la bonté naturelle, que Xunzi soutient le caractère mauvais de la nature humaine, que le classique de la piété filiale, le Kōkyō, c'est pas la troisième ligne, le classique de l'un des piliers de du confucianisme en Chine et au Japon, lorsque ce classique de la piété filiale prône la piété filiale et que la grande étude, le Tashu, le Daigaku, ses théories sur l'amour et la haine, que le livre des mutations, le Yiching, n'est-ce pas, pose sa cosmologie, ils ne font tous tant qu'ils sont que recouvrir d'une éloquence pompeuse des choses d'une simplicité sans pareille, afin d'attiser l'intérêt des gens. Ce qui est un expédient, vous voyez, il emploie la quatrième ligne avant la fin, donc Hoben Nadi, n'est-ce pas ? Il emploie un terme bouddhique, l'expédient salvifique, ce qui est un expédient pour les amener à soi. La rhétorique en Chine a donc la même fonction que l'illusionnisme en Inde, Izuna. Il dit que les bouddhistes, le bouddhisme ésotérique, c'est de la prédigitation, n'est-ce pas? Izuna, je ne reviens pas sur l'étymologie, c'est un peu compliqué, mais c'est tout ce qui est prédigitation, les fakirs, etc., n'est-ce pas? Donc, et ici encore, kore wa sanomi nihon ni wa irazaru koto nari, il n'en faut pas tant aux Japonais. Donc c'est Takamoto, c'est pas Norinaga qui parle, n'est-ce pas, vous l'aurez compris. Ce sont ces défauts que Norinaga ne trouve pas chez Lao Tzu. Une simplicité donc qui peut tromper les simples. Alors je reviens ici à Norinaga. Cependant, ce qu'il prône de Lao Tzu ne relève que des réflexions reposant sur sa propre intelligence, n'est-ce pas? C'est Onon a Satori. Son intelligence, le satori, comme vous savez, on l'utilise très souvent dans le zen, même en français, comme terme zen, c'est un terme beaucoup plus vaste qui n'est pas forcément bouddhique, c'est tout simplement l'intelligence des choses, avoir intelligence, comprendre les choses, n'est-ce pas ? Donc, et vous voyez qu'il l'emploie souvent comme kundoku, Norinaga l'emploie souvent comme kundoku, comme lecture japonaise du terme e, ou de chie, ou chi, ou de e, n'est-ce pas ? Donc, se relève de sa propre intelligence et puisqu'il n'est pas né au Japon, il a le malheur de n'être pas japonais, et n'a pas entendu la voix dans sa justesse, Tadashiku, il n'a pu connaître le sens primordial qui en est l'essence. Sono muneto aru moto no kokoro wa shiru koto atawazu. C'est donc tout à fait différent. Il s'agit même d'une ressemblance fallacieuse, nimotsukanu. Mais la clique à la mentalité chinoise, n'est-ce pas, encore une fois, Kanagokoro no Tomogana, ne s'aperçoit pas d'une telle différence. Et ne relevant que des ressemblances fortuites et partielles, Tamatama Katahashi Nitaru Koto en font la base de la voie véritable du Japon, ce qui est parfaitement imbécile. Ito Oko Nari. Oko est un vieux mot pour dire baka, n'est-ce pas, donc c'est un mot très fort. On comprend ainsi que Norinaga émet quelques réserves sur la capacité des non-japonais, fussent-ils Lao Tzu, à accéder à la voie véritable, qui ne s'est manifestée en sa simplicité essentielle qu'au Japon seulement. Les ressemblances fortuites sont cependant inévitables, et là il se livre à une petite théorie générale, de façon générale, n'est-ce pas, il est Okata. Parmi les myriades de phénomènes, Yorozu no Koto, il est inévitable que viennent se mêler, ça et là, des ressemblances réciproques ou de contact. Encore une fois, il emploie le mot kayou ici. Kayoite nitaru koto. Cette voix, sous-entendu cette voix japonaise, aussi a pu se mêler par réciprocité, kayoeru tokoro wo majidite, n'est-ce pas, avec la teneur du confucianisme, de même qu'il y a des ressemblances avec la voix de Bouddha. Et donc, tout naturellement, présentant des ressemblances partielles. Pourquoi ces voix ne se mêleraient-elles pas ? Voilà, ce sont des ressemblances partielles qui font comme. On voit que la relative indulgence de Norinaga dans sa réaction aux accusations, il s'agit certainement pour lui d'accusations, de ressemblances suspectes entre ce qu'il dit de la voix véritable japonaise et la voix de Lao Tzu, est fondée sur une conviction inébranlable en l'originalité profonde de cette voix au regard de toutes les autres créations continentales, qui comportent toutes une défaillance ontologique irréparable du fait qu'elles ne sont pas japonaises. Décidément, rien ne saurait l'atteindre dans sa conviction profonde, et l'on est parfois pris de l'envie de citer, comme nous venons de le faire en matière d'antidote, les propos aussi sardoniques que pertinents de Tominaga Nakamoto. à l'encontre de toutes les rigidités idéologiques, y compris le Shinto. Nous aurons le temps d'y revenir très brièvement tout à l'heure. Contentons-nous pour l'instant de remarquer, de crainte de l'oublier plus tard, que la méthode de Norinaga nous paraît claire. Au risque d'employer de grands mots, on pourrait dire qu'il s'agit d'une sorte d'apophatisme, de théologie apophatique, n'est-ce pas ? Cette théologie qui est la propre de théologiens hellénistiques comme Denis l'Aréopagite, n'est-ce pas ? Et pas l'aérophagite, comme disait, qui essaye de définir Dieu par ce qu'il n'est pas, n'est-ce pas ? Et puisqu'il est impossible de définir ce qu'il est, on essaye de créer un vide, un vide sémantique, en quelque sorte, au milieu duquel se trouve Dieu. Et ici, la méthode de Norinaga est assez proche de cela, ce qui montre qu'il y a quelques constantes dans la réflexion religieuse. Il ne se risque pas à définir la voie, mais insiste beaucoup sur ce qu'elle n'est pas. Et ce qu'elle n'est pas, c'est l'une quelconque des voies chinoises ou continentales. Il admet seulement une certaine ressemblance avec la voie telle qu'elle est exposée dans le livre de la voie et de la vertu attribué à Lao Tzu, mais pour insister sur le fait qu'il ne s'agit que d'une similarité fortuite. On pourrait se demander quelles étaient exactement ces remarques faites sur les similitudes entre la voie de Lao Tzu et les idées de Norinaga. Il semble qu'il fasse allusion aux reproches qui lui ont été faits de démarquer simplement les idées d'inspiration taoïste sur le naturel, le spontané. Mais ces reproches semblent être tardifs. Je vous renvoie à l'article ici de Mme Jolier-Thomas, puisqu'elles sont articulées par un confucianiste de l'école de Mito, évidemment, mais qui reprenait peut-être des critiques plus anciennes. Alors, vous voyez qu'il est né au moment où mourait Tominaga, donc Fujita Tōko, qui adresse ce genre de reproche à Norinaga. Donc, il est bien postérieur. Mais ça devait certainement reprendre des critiques plus anciennes. Et peut-être aussi, j'en reparlerai tout à l'heure, l'allusion à la polémique avec Ueda Akinari, n'est-ce pas, que l'on connaît par ailleurs pour d'autres choses, mais qui a polémiqué avec Norinaga. Il est certain en tout cas que l'insistance de Norinaga lui-même sur la notion de Onozukara, vous voyez que le Onozukara qui ressemble tout à fait... Oui, Fujita Tōko reprochait à Norinaga d'avoir un concept de la nature, mais attention, il ne faut pas prendre nature dans ton sens actuel de nature, plutôt il faudrait le dire du naturel, c'est-à-dire le shizen, jinen dans le sens ancien. Vous savez que nous avons montré dans un colloque de rentrée du Collège de France il y a quelques années que le concept de nature a été repris au Japon. Enfin, le terme de shizen a été réactivé dans le sens occidental de nature, mais c'est un terme très ancien qui n'avait pas du tout le sens de nature, et de nature au sens où nous l'entendons maintenant, au sens écologique. C'était le naturel, ce qui vient de soi-même à l'existence. Ou bien c'est l'attitude naturelle de quelqu'un qui n'est pas dictée par une éducation. Ce n'est pas du tout le retour à la nature. Et ce concept de Onozukara, que vous voyez répété constamment par Norinaga, est bien sûr à rapprocher du shizen, de la spontanéité taoïste. C'est peut-être aussi là qu'il faut voir un rapprochement. Mais cette réfutation ponctuelle donc, reflète bien l'ensemble de la méthode de Norinaga. La voie véritable du Japon, je le répète encore et encore, ne saurait se comparer à nul autre. Elle existe en soi et naturellement. C'est en ces deux sens qu'il faut comprendre Onozukara. Et c'est vrai que ça ressemble tout à fait au Tao de Lao Tzu, mais là encore, la ressemblance n'est peut-être pas aussi fortuite que le dit Norinaga. N'oubliez pas que ce sont des conceptions qui sont roulées depuis des siècles au Japon. Et il poursuit sa pensée dans le paragraphe suivant, le 411, que je vous donne, n'est-ce pas, qui est intitulé. Alors, Michi Otokukoto wa Adashi Michimichi no Kokoro ni mo Yo no Shito no Toritorazaru ni mo Kakawaru Majiki Koto, n'est-ce pas ? De ce que, pour expliquer la voie, on ne s'occupera ni du sens des voies étrangères, ni du refus ou de l'assentiment des contemporains. Ionoshito, je le prends ici dans le sens de contemporain, c'est-à-dire les gens du monde non pas dans le sens parisien, mais les gens de notre société, mais ça aussi un peu le sens parisien à l'époque de Heian, c'est-à-dire que les gens yononaka, eh bien c'était la cour, c'était le miyako, n'est-ce pas, le petit milieu culturel qui était constitué par le palais impérial et les dépendances des courtisans. Donc, il reprend dans ce paragraphe plus bref ces bêtes noires, le confucianisme et le bouddhisme, et le taoïsme dans une moindre mesure, et où il met en garde contre les réactions négatives à l'encontre de ces doctrines qui pourraient mener à modifier ses propres idées. Je vous donne rapidement la traduction. En voulant expliquer la voie, il arrive parfois que l'on bloque, n'est-ce pas, c'est toraete, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à progresser à cause que l'on bloque des communautés de sens, kokoro no kayo eru tokoro, encore une fois kayo, n'est-ce pas, que ce soit avec le confucianisme, le taoïsme ou le bouddhisme, et que nous en remettant à ce vers quoi notre pensée est attirée, nous concentrions toute notre exégèse sur ce qui ne présente pas de point commun avec ces doctrines. C'est-à-dire que vous voyez, de peur de ressembler à des doctrines chinoises, on reste bloqué et on n'essaye pas d'avancer dans certaines directions qui seraient tout à fait légitimes, ce qui serait tout à fait légitime de faire, mais on ne voudrait pas passer pour Kanagokoro no Tomogana, n'est-ce pas, la clique de la pensée chinoise. Donc on se retient en quelque sorte. Ou que, encore, répugnant à ressembler à des voix étrangères, on fasse montre d'une discrimination exagérée. Kotosalani kejimeo misete, n'est-ce pas ? Donc on laisse de côté. Et que l'on en arrive à modifier ces explications. Samao kaete tokam tosuru. Ce sont là que des réactions pitoyablement contraintes. Ajiki nakushi taru waza nari. Qu'elles y ressemblent ou non, qu'elles diffèrent ou non, notre étude, je traduis ici waza par étude, waza c'est l'activité, n'est-ce pas, l'activité, mais ici c'est l'activité intellectuelle et aussi littéraire de Linaga. Notre étude, d'aucune façon, ne se rapporte le moins du monde au sens des voix étrangères. De même, dans nos exégèses, penser qu'elles ne seront pas reçues par les gens et qu'en disant telle chose, on sera cru, prenons aussi en compte, n'est-ce pas, la mentalité de nos contemporains, voilà ce qu'il ne veut pas faire. Yono shito no kokoro torite, n'est-ce pas, voilà, prendre en compte le torite torazaru de tout à l'heure. Et pour cela, gauchir le moins du monde, isasakamo toki magen koto, nos commentaires, c'est tout aussi inadmissible, ito aru magique. Et c'est un acte d'une grande vilenie, kokoro gitanaki waza nari. Kokoro Kitanaï, c'est quand même très fort, là. C'est sordide, dit-il. Voilà, essayer de se retenir de peur de ressembler aux Chinois, ça ne se fait pas. Il n'y a pas lieu de tenir le moindre compte des louanges ou des blâmes, Homete Soshili, des contemporains. Bien qu'il y ait des contradictions avec les voix de l'étranger, ou qu'il n'y ait personne pour nous accorder confiance dans le public, il s'agit seulement d'exposer telle qu'elle est la teneur des saintes écritures des dieux. Il retourne encore, c'est pas Kami no Mifuni no Omomuki no Mama. Voilà, il dit bien ici voilà sa voix. Il ne dit pas ce qu'est la voix, mais il dit ce qu'est sa voix. Sa voix, c'est transmettre la voix. Vous voyez qu'on n'est pas très avancé. Certes, il n'y a d'autre argument que celui d'autorité dans le discours de Norinaga. On pourrait même lui accorder une conception toute Wittgensteinienne de la tautologie du langage, puisqu'il ne sort pas de l'intériorité du contenu de son discours. Il l'a déjà dit, il n'a nulle intention de faire œuvre originale, mais de transmettre le plus fidèlement possible la teneur des discours divins. Tout le monde aura certainement déjà remarqué que Norinaga se plaît à employer le mot « teneur » omomuki pour désigner l'objet de son étude, ce monomanabi. Ce terme apparaît plus souvent que celui de Hoshie, par exemple, la doctrine, l'enseignement, qui est si caractéristique des prêcheurs bouddhiques. La voix telle qu'il la conçoit se caractérise par une teneur, homo muki, qui veut dire une direction. Hein. Homo, c'est le visage, muki, c'est le orienter le visage. Terme plus dynamique, qui fait moins allusion à un contenu qu'à un cap, pour ainsi dire. Et l'on comprend ainsi que le verbe qui désigne le plus souvent sa propre activité, le verbe toku, qui signifie parler, expliquer, délier, et qui s'emploie, certes, pour l'activité exégétique ou prédicatrice des autres écoles, et singulièrement le bouddhisme, renvoie chez lui à une activité plus précise à laquelle nous avons déjà fait allusion, celle de décryptage des textes sacrés. Toku veut dire aussi délier, c'est-à-dire délier quelque chose qui est lié, délier un secret, défaire un nœud, n'est-ce pas ? Défaire un nœud. Ce que fait Norinaga, et ce en quoi il se distingue des penseurs et prédicateurs des trois autres écoles, est en quelque sorte de la philologie sacrée. Et il emploie à bon escient les verbes élucider, mi akiramu, et manifester en expliquant, toki arawasu, pour désigner l'activité, le waza, à laquelle il se livre. On voit qu'il s'agit pour lui d'une activité purement intellectuelle et philologique qui n'engage nulle pratique ni activité de conversion. C'est en cela que son toku, son activité langagière, est tout à fait différente de la prédication bouddhique qui s'emploie aussi avec le mot toku, n'est-ce pas ? Lui, il délie, il décrypte. Cela explique aussi une certaine répugnance de sa part à l'égard de l'une des pratiques les plus répandues dans le Shinto de son époque, et déjà depuis bien des siècles, la transmission secrète des doctrines sous l'influence évidente des écoles bouddhiques et ésotériques. Pour nous en assurer, le mieux sera de laisser encore une fois la parole à Tominaga Nakamoto, dans une citation certes un peu longue, mais qui mérite d'être donnée avant de voir ce que Norinaga a nous dire sur la transmission ésotérique. Et il faut de plus reconnaître que le style plein de verve de Nakamoto nous fera, c'est toujours un plaisir à lire, et nous fera une distraction appréciable. Nous avons déjà d'ailleurs fait allusion à une courte notice sur Tominaga Nakamoto dans la précieuse corbeille de Norinaga. Norinaga a lu Nakamoto. Cela, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Il le mentionne avec grande approbation pour sa critique du bouddhisme. Je ne sais pas ce qu'il pensait de sa critique du shintoïsme, je ne pense pas qu'il en ait trouvé beaucoup de bien. Alors évidemment, il cite le Nakamoto de son grand ouvrage en chinois classique, qui est le Shichokogo, n'est-ce pas, les propos tenus au sortir du samadhi, la concentration, n'est-ce pas. Évidemment, c'est un titre très ironique, puisque Tominaga Nakamoto n'est absolument pas bouddhique. Mais il a certainement aussi eu connaissance du très court opuscule qui s'appelle le propos du vieillard, Okina no Fumi, qui était publié après la mort de Tominaga Nakamoto, mais il était publié en 1744. Donc, ce qui fait que Norinaga avait 14 ans, il a eu tout le temps de le lire après. Alors, donc nous citons cet extrait qui suit celui sur le confucianisme vu plus haut. Alors, vous voyez qu'il reprend. Sate mata shinto no kuse, ouais, il reprend encore le mot kuse, n'est-ce pas ? Venons-en à présent au shinto, qui a pour mani, malheureuse, comme prédilection malheureuse, comme mani, l'occultisme, shimpi, les transmissions secrètes, les traditions réservées, denju, hiden, shimpi. La mani de tout cacher. Tada mono o kakusu ga sono kuse nari. En général, lorsque l'on cache quelque chose, c'est qu'il y a eu fraude ou vol. Au moins dans le cas de l'illusionnisme et de la rhétorique, donc le confucianisme et le bouddhisme, il y a des spectacles et des paroles dignes d'intérêt et propres à plaire, ce qui leur vaut d'être considérés avec indulgence. Mais ce goût du secret, lui, nous semble en tout point méprisable, otoredi to yubeshi, inférieur. Admettons qu'autrefois, peut-être, lorsque les gens étaient plus simples, il y eut quelques convenances à les guider de la sorte. Mais en ces temps de décadence qui sont les nôtres, vous voyez, suenoyo, encore un terme bouddhique, alors que la fraude et le vol prospèrent, si ceux qui enseignent la voie des dieux recouvrent et protègent du secret les maux perpétrés parmi eux, cela ne peut qu'aller complètement à l'encontre de la vérité. Alors là, c'est amusant pour les amateurs de culture japonaise. Il n'est pas jusqu'aux arlequinades du no, n'est-ce pas, et aux pitreries de la cérémonie du thé, où l'on ne leur emboîte le pas pour fabriquer de toutes pièces des sceaux de transmission de l'enseignement, et ce, par-dessus le marché, contre un prix fixé, ce qui fait de ces activités un simple gagne-pain. Quelle misère! Asamashiki Sarugaku et Chano Yusama no Koto ni Tanomade. Asamashiki, c'est quelque chose de méprisable, n'est-ce pas? Et si l'on demande pourquoi avoir mis au point de tels procédés, on va vous expliquer que c'est parce qu'il est bien difficile de transmettre simplement les enseignements à des gens dont les facultés n'ont pas encore mûri. Donc c'est les konki no juku sezaru mono niwa, c'est un terme bouddhique encore. Cela n'est peut-être pas tout à fait faux, mais on ne peut s'empêcher de penser qu'une voie où l'on s'attache au secret, où il est impossible de transmettre simplement les enseignements et où on ne les communique que contre espèces sonnantes, une telle voie, certes, est bien différente de la voie véritable. Et vous voyez que là, c'est l'avant-dernière ligne, la dernière ligne. Mina makoto no michi ni wa aranu koto to kokoro ubeshi. Encore une fois, makoto no michi, c'est le même terme qu'utilise Norinaga. C'est un terme répandu chez tous les, d'ailleurs dans toutes les écoles, mais dans le shintoïsme, il est aussi transmis, bien sûr, chez plusieurs Kokugen Hakusha, mais c'est Norinaga qui l'utilise dans un sens tout à fait particulier. Donc, Norinaga, alors ici, vous pouvez voir directement à l'écran, j'ai pu trouver sur l'Internet ce texte que j'ai un peu remanié pour quelques questions d'orthographe, etc. Mais c'est à peu près conforme à celui des œuvres complètes de Norinaga. Donc, Norinaga est tout aussi conscient de ce caractère théorique, ésotérique du Shinto de son époque, et il explique c'est le paragraphe 569 de la précieuse corbeille, ce qu'il pense de ce mode de transmission. Dans la rubrique intitulée « L'ésotérisme de la voix », Michi no entre parenthèses, Himekoto qui veut dire donc le secret, mais vous voyez que sous un air tout à fait japonais, Himekoto, le hi de himu n'est que le caractère chinois Himitsu no hi, n'est-ce pas? Simplement qu'il suffit de l'écrire en hiragana et de mettre un suffixe verbal très ordinaire, le mu, n'est-ce pas, qui est l'un des suffixes les plus utilisés pour créer des verbes à partir de substantifs. Eh bien voilà, vous avez hi mu, donc hi, le terme chinois bi, n'est-ce pas, ou mi, qui veut dire le secret, et avec le suffixe verbal, vous avez un magnifique mot japonais qui est tout à fait méconnaissable. Donc, je vous donne ce mot. Isolé no michi ni mo, n'est-ce pas? Pour quelque voie que ce soit, ce qui en fait l'importance, ô Goto, cela sans exception dans le vaste monde, est généralement tenu secret. Si cette voie est réellement importante, on a certes envie de la divulguer largement de par le monde. Alors il va se livrer à un paradoxe. Là, plus la voie est importante, plus elle est grave, plus elle est lourde, eh bien, à mesure qu'elle se divulgue, elle va devenir légère et étroite, parce qu'on ne peut pas tout divulguer. Il y a une sorte d'usure à la transmission, en quelque sorte. On a certes envie de la divulguer largement de par le monde, mais devenant trop grave, trop lourde, elle ne se transmet plus facilement, se fait étroite, et elle risque de s'interrompre. Taeyasuki wazazo kashi. Aussi, si on la propage inconsidérément, la voix n'en devient que plus légère, ce qui, à première vue, apparaît logique. Mais si d'un côté elle se fait plus légère, il est cependant louable qu'elle se propage dans le monde. De par sa divulgation même, elle se fait naturellement, onozukara, importante, c'est-à-dire lourde. et elle retrouve son importance originelle. C'est-à-dire, c'est en s'allégeant qu'elle redevient importante dans la mesure où elle est généralisée. C'est un argument assez subtil. Quelle que soit sa lourdeur originelle, Ikani Omoomoshi Kedeba Totemo, il n'est pas souhaitable qu'elle devienne étroite et vague. À plus forte raison, si elle vient à s'interrompre, à quoi cela aura-t-il servi ? À quoi cela aura-t-il servi ? Donc, Norinaga est-il embarrassé pour expliquer ce phénomène ? Toujours est-il que son propos est peu clair, vague même. Tentons malgré tout de l'expliquer. Il commence par constater que la pratique d'occulter l'enseignement de la voix, des voix même, toutes celles qui se propagent dans le monde, et pas seulement le Shinto, est fort répandue. Mais à son avis, si une voix est réellement importante, il convient de la propager largement. Toutefois, son importance même, c'est-à-dire sa pesanteur, c'est ainsi qu'il faut comprendre cet adjectif, la rend difficile à transmettre, contraint ceux qui la propagent à l'alléger, karogaroshikusu, c'est un terme qui revient souvent, et à la réduire, sebakusu. Mais cela permet précisément sa propagation, et une fois divulguée, elle retrouve tout son poids. Il faut donc se garder de la laisser dans un état allégé, incomplet et trop vague, pour en assurer une transmission correcte. Cela ne servirait à rien. Si nous comprenons donc correctement ce texte, Norinaga soutient qu'il faut transmettre la voix telle qu'elle est, même si, ce faisant, elle risque de se diluer quelque peu selon la réceptivité des auditeurs. Il n'est nul besoin de tenter de la revaloriser en faisant l'objet d'une tradition occulte. Et la notice se termine en conséquence sur une critique qui fait écho à celle de Sakamoto. Excusez-moi, donc nous en sommes là maintenant. Donc, Saledomo, Chikakiyoni, et cependant, dans les âges récents, avec les méthodes, je traduis ici suji par méthode, avec les méthodes consistant en transmission secrète ou orale, vous voyez qu'il dit hiden kuketsu, ce sont des termes bouddhiques à l'origine, un peu les mêmes que ceux qu'a utilisé Nakamoto, mais ce sont des termes bouddhiques, mais qui s'utilisent aussi dans le Shinto, spécialement dans le Shinto, Ryobu Shinto, dont vous vous souvenez qu'il a fait il en a fait une critique très, très, très fondamentale la dernière fois, en la mettant d'ailleurs dans le même sac que le Yuimitsu Shinto, le Yuitsu Shinto, c'est-à-dire le Shinto monadique, parce que le Shinto monadique, qui ne se veut non bouddhique et non confucianiste, emploie aussi des transmissions secrètes. Donc tout ça est dans ces transmissions secrètes orales. Donc, cependant, dans les âges récents, avec les méthodes consistant en transmission secrète ou orale des différentes voix, la plupart du temps, leur prétention à donner à la voix tout son poids est purement nominale, tada na nominite. En réalité, makotowa, on ne la fait pas connaître aux gens, et on ne la garde que pour soi-même, onore shitori no mono ni shite. Sordide mentalité personnelle, encore une fois, watakushi no kitanaki kokoro, et nombreux sont ceux dont la mentalité est plus sordide encore. Qu'une telle engeance se retrouve un peu partout, dans les diverses voies des futiles divertissements. Alors, hakanaki ge no michi nado. Alors, soit, et les futiles divertissements, évidemment, il parle du thé, de la danse, de tous les il emploie ici le mot gigé, n'est-ce pas, qui emploie tous les arts et artisanats que l'on peut imaginer. Soit, n'est-ce pas, arube keredo. C'est exactement l'idée de Nakamoto. Mais elle n'a rien à faire dans la voix distinguée et élégante qui est la nôtre, n'est-ce pas, uruwashiku hakabakashiki michiniwa. C'est-à-dire, c'est la voix de donc ces transmissions ésotériques, c'est bon pour le no, la cérémonie du thé, le kagura aussi. Il parle du kagura, n'est-ce pas, de mentionné par Nakamoto. Rien de tout cela n'est la voix véritable, et terme que l'on voit encore une fois utilisé aussi bien par Nakamoto que par Norinaga. Alors, juste après cette rubrique, nous en avons une autre qui est la rubrique 570, qui est très sobrement intitulé « La voix, Michi », en caractère chinois ici, « ta, do », n'est-ce pas, et qui vient exposer en deux lignes ce qu'est la voix pour notre auteur. enfin en deux lignes, un peu plus de deux lignes. Nous la connaissons à peu près désormais et nous pouvons nous attendre à n'être guère mieux informés après cette révélation. Elle est pourtant primordiale pour Norinaga et nous allons voir qu'il y tient énormément. Voici donc sa présentation de la voix et nous allons voir que c'est nullement une définition. Bon, vous avez quelques mots, quelques termes, des noms de dieux impressionnants, n'est-ce pas ? La voix fut commencée par les deux divinités, Izanagi et Izanami, grâce à la vertu créatrice. C'est ainsi que je traduis le terme Musu, Musushi, n'est-ce pas, qui est les premiers caractères de la deuxième ligne, que l'on peut lire aussi Musubi, mais enfin qu'on lit maintenant Musubi, mais qu'on lisait Musushi autrefois. Donc c'est, et les, alors vous voyez que Musu ou Musu est le caractère qui veut dire engendrer, accoucher, donner naissance à, et hi est la lecture ici de tama, qui veut dire aussi la force surnaturelle. Donc je traduis ça par vertu créatrice, ou on pourrait dire vertu génératrice. Alors, grâce à la vertu de la vertu créatrice des augustes ancêtres divins, Miyoya, que sont les, alors ce sont les premiers mots, Takami, les premiers noms, Takami Musubi et Kami Musubi. Elle fut reçue et mise en action, cette voix, vous avez, donc, Uke Okonawa, c'est un mot, par la grande déesse Amaterasu, Omikami. Et en conséquence, c'est la voix qui a pu être universellement propagée dans sa plénitude, Amaneku Yukitaro Bekimichi, à tous les pays, entre les ciels et la terre. Amatsuchi no Aida. Vous voyez qu'il met Amatsuchi entre le ciel et la terre, il évite d'employer le mot Amenoshita qui désigne l'empire. Ici, c'est, et que l'on traduit souvent par le monde. Mais ici, c'est vraiment le monde entier. C'est le, il est dans la période cosmogonique, n'est-ce pas, de la voix. Donc, elle est partout. Mais après, elle ne va rester qu'au Japon. Nous ne pouvons, et nous en serions bien incapables, entrer ici dans les détails de la théologonie japonaise. Précisons seulement que les deux premières divinités citées, Takami Musubi et Kami Musubi, constituent avec... Alors vous verrez qu'il y a quelques différences de graphie avec la citation que je vais vous faire après. N'y faites pas attention, comme je vous le dis, c'est un peu compliqué, mais ce sont les mêmes. Donc, Takami Musubi et Kami Musubi constituent avec Kuni no Tokotachi no Mikoto, que nous avons vu mentionné par Norinaga à la leçon précédente, n'est-ce pas, une sorte de trinité de dieux solitaires, monadiques, encore les Hitorigami, dont émanent les dieux célestes qui viennent après eux à l'existence. J'emploie trinité d'ailleurs presque à bon escient, parce qu'il faut savoir que ces trois noms mystérieux qui apparaissent au début du Kojiki ont été repris par quelques missionnaires américains au 19e siècle, puis après par des penseurs japonais un peu mystiques, pour dire que voilà, il y avait une conception fondamentale japonaise de la Trinité chrétienne qui apparaît dès le Kojiki. On a l'habitude de ce genre de choses. Vous savez qu'on avait trouvé aussi le nom de Jéhovah, Yishi Wei dans le Tao Te Ching. Donc tout est possible quand on sait bien regarder. Et après cette trinité, donc, viennent les dieux individualisés en quelque sorte. Il en esquisse la généalogie et nous n'y revenons pas. Ici, en tout cas, il se livre à une spéculation intéressante sur laquelle il revient à plusieurs reprises et qui est peut-être liée aux critiques que lui a faite le grand lettré Ueda Akinari, que nous connaissons tous comme l'auteur des contes de pluie et de lune, je crois que c'était traduit comme ça en français, le Ugetsu Monogatari, n'est-ce pas, dont il y a eu un film extraordinaire aussi, qu'on connaît sans doute encore. Et Ueda Akinari, qui fut lui aussi un kokugakusha, mais donc un spécialiste des études japonaises, mais un kokugakusha modéré, enfin qui utilisait quand même son bon sens. Et il estimait que les Il y a eu donc, une polémique entre les deux, sur laquelle je ne peux pas entrer. Mais il estimait que les idées de Norinaga sur la théogonie primordiale japonaise défiaient le bon sens pour qui regardait le monde à la lumière des sciences nouvelles. Il suffisait de regarder spécialement les cartes hollandaises qui circulaient au Japon à l'époque pour qu'on se voit confirmer ce que tout le monde savait déjà au Japon, que c'était un pays qui était appelé, même dans les textes bouddhiques et non bouddhiques d'ailleurs japonais, Henshi Zokusan, je sais pas, ou parfois Henji Zokusan, ou Hendo, ou Zokusan Hendo, par exemple, c'est-à-dire un pays marginal au bord du monde, comme des grains de millet dispersés au bord du monde. Voilà, c'est ainsi que les Japonais s'appelaient. Ueda Akin a dit, mais on a l'air fin avec votre histoire comparé à ce qu'est la place du Japon dans le monde. Et on imaginait difficilement qu'Amaterasu, qui soit si japonaise, ait pu régner sur l'univers. Et Norinaga a donc recours à la méthode assez répandue dans les religions. Je pourrais faire allusion, par exemple, au père Wilhelm Schmidt, n'est-ce pas, au début du XXe siècle, qui avait fait des Ursprung der Gottesidee, n'est-ce pas, l'origine du nom de Dieu. Et il avait fait un travail extraordinaire. C'est quelqu'un qui connaissait des tas de langues et des langues rares, polynésiennes aussi. Il avait essayé de trouver dans le monde entier, la trace d'une révélation chrétienne originelle qui aurait été oubliée après. Bon, c'est à peu près la même chose, mais nous voyons ce genre d'idées revalorisées récemment. Je vous mentionne très simplement, très très rapidement quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, enfin qui a fait beaucoup de bruit dans les études de mythologie comparée. C'est un très grand indianiste, spécialiste des études védiques, Michael Witzel, n'est-ce pas, qui est allemand et qui enseigne aux États-Unis. Et il a fait en particulier un article tout à fait intéressant. Vous voyez, Vala et Iwato, The Myth of the Hidden Sun in India, Japan and Beyond, et où il explique qu'en quelque sorte la mythologie japonaise est très utile dans ce travail de mythologie comparée, parce qu'elle apporte, pour lui, ce sont des thèmes mythologiques qui ont été transmis au cours des millénaires, n'est-ce pas ? Donc il soutient que la mythologie japonaise comporte des éléments plus anciens que la mythologie védique et à laquelle il faut se référer. Alors il vient en quelque sorte confirmer l'idée de Norinaga. On n'est pas obligé de croire Michael Witzel, et je crois qu'il n'est pas, malheureusement, je vous dis, c'est un très grand indianiste, mais ce saut dans la mythologie universelle n'est pas suivi par tout le monde, tant s'en faut. Mais vous voyez qu'on a la même idée. Et la réaction de Witzel est assez proche de la théorie de Norinaga. Donc Norinaga dit bien que ce qu'il décrit, cette cosmogonie qui est décrite, est une cosmogonie universelle, mais qu'elle ne va rester qu'au Japon. Ce bref paragraphe de Norinaga n'est pas isolé dans son œuvre. Et nous conclurons sur l'introduction à son Tamakushige, vous vous souvenez, je vous en ai parlé très rapidement, le précieux étui à peigne, dans laquelle il reprend presque mot pour mot la même idée, tout en la parsemant de remarques comparatives que nous connaissons déjà. Rappelons que ce Tamakushige fut rédigé en 1787, donc très tard dans sa vie, à la demande du seigneur de Ki, n'est-ce pas, Kinokuni, qui voulait des conseils sur l'administration de son fief. Ne revenons pas sur l'aspect peu réaliste des conseils qui ont été donnés par Norinaga, et contentons-nous de lire les premières lignes de l'introduction, dont on pourra se demander d'ailleurs comment elle s'articule avec l'administration du fief, et on comprend la perplexité de celui qui a reçu ce livre. Donc la première affirmation nous est bien connue. La voie véritable s'est propagée à l'ensemble de la région entre ciel et terre. Vous voyez, il y en a encore... Tenchi amatsuchi no aida ni watanite. Donc, c'est l'ensemble du monde, le monde que nous connaissons. Et en quelques pays que ce soit, izure no kuni mademo, onajikutada shitosujinari. Elle n'est qu'une seule lignée, semblablement propagée. Cependant, cette voie ne s'est transmise avec rectitude, encore une fois, n'est-ce pas, tadashiku, que dans notre seul royaume, shitori mikuni, et dès l'Antiquité. Dès l'Antiquité, elle s'est perdue dans la transmission dans tous les pays étrangers. Totsukuni niwa mina, n'est-ce pas ? Dans tous les pays étrangers. Alors, bien qu'elle ait été perdue à l'étranger, cette voie, cela n'a pas empêché les pays de s'inventer des voies. C'est pourquoi, dans les pays étrangers, sont exposées de leur côté toutes sortes de voies. Et ils soutiennent que chacune d'elles est la voie correcte, alors que les voies des royaumes étrangers sont toutes des sentiers d'embranchement, n'est-ce pas, on pourrait dire, edamichi, n'est-ce pas, suezue no edamichi, n'est-ce pas, sont des sentiers d'embranchement, on ne peut plus secondaire. C'est un peu les Holzweg de Heidegger, n'est-ce pas. Des voies qui ne mènent nulle part et n'a rien à voir avec la véritable voie correcte d'origine. Tatoi koko kashikoto nitaru tokoro wa ari to iedomo, n'est-ce pas ? Bien qu'il se trouve ça et là des ressemblances, ces voies d'embranchement secondaire, de par leur caractère mélangé, s'il n'aime pas non plus, n'est-ce pas, majieru, majieru, c'est un mot qui ne lui plaît pas, de par leur caractère mélangé, ne correspondent pas à la voie véritable. Eh bien donc, pour présenter tant bien que mal, la teneur de la voie véritable originelle en sa continuité, il convient en premier lieu de saisir le principe général de notre monde, le principe général, qu'est-ce que c'est? Et alors voilà, on se dit voilà, on va tout apprendre, et quel est ce principe ultime? Et voici la réponse, le principe en question, sono dori to wa, et il reprend, c'est que dans notre univers, Amatsuchi, les divinités, comme les êtres, c'est Morokami et Yorozu no Mono, sont tous tant qu'ils sont, en leur origine, choses créées, Nari Hidekitaru Mono Nishite, grâce à ce que l'on appelle l'esprit de vertu créatrice, Musushi no Mitama, il rajoute Mitama à Musushi, n'est-ce pas, Musubi no Mitama, l'esprit de vertu créatrice des deux divinités, Takami Musubi et Kami Mimusubi. Je n'insiste pas sur les variantes graphiques. Et que d'âge en âge, la naissance de l'humanité, donc qui vient après, et la création des phénomènes, Yorozu no Mono, Yorozu no Koto, sont entièrement dus à cet esprit, à ce Mitama. Nous avons donc presque mot à mot la rubrique 570 du Tamakatsuma, avec le prolongement vers les humains et le monde créé en général. Il continue, comme nous l'avons vu plus haut, ainsi, au commencement de l'âge des dieux, la procréation par les deux grandes divinités des dieux de la terre, les Kokudo Bambutsu, c'est-à-dire donc Izanagi et Izanami, a pour origine l'auguste esprit de vertu créatrice de ces deux divinités. Toutes ces révélations viennent d'en haut, l'homme n'y a pas accès par lui-même. Or, ce divin esprit de vertu créatrice, étant une activité shiwaza, n'est-ce pas, surnaturelle, alors, kiki myo myo, n'est-ce pas, la première ligne du deuxième paragraphe, qui est un terme tout à fait bouddhique, une activité propre aux divinités, il n'est pas donné aux êtres humains de sonder hakari shiru, n'est-ce pas, de connaître par l'investigation, de sonder avec leur sagesse, satori, ici encore, vous voyez, chie qu'il faut lire satori, avec leur sagesse, le principe rendant cela possible. Nous avons parlé de théologie apophatique tout à l'heure. Bien que Norinaga n'en fasse pas une méthode d'exposé, elle lui sert cependant, et avant tout, à justifier le refus d'admettre que les pays étrangers, ou étranges, aient le moins du monde accès à ces vérités autrement que par hasard. Elles sont hors de leur portée. Elles sont hors de leur portée. Ainsi, parce qu'il n'y a pas de transmission de la voie correcte, à l'étranger, ils ne peuvent avoir connaissance de l'auguste action de la divine vertu créatrice. Et ils tentent d'expliquer le principe de l'univers en établissant des argusies. Ils donnent Rikutsu, donc, qui correspond à Sakashira, les affaîtris, les milliardises de tout à l'heure, tels que le yin et le yang, les huit trigrammes, les cinq agents, c'est-à-dire les grands termes de la pensée chinoise, et ainsi de suite. Mais tout cela n'est que conjectures erronées, oshi hakari no mosetsu, de l'humaine sagesse. Et un tel principe ne saurait réellement exister. Voilà, donc toute la pensée chinoise qui essaye d'expliquer tout cela, ça ne vaut rien. La suite du texte à l'avenant est en train de démontrer qu'un bon gouvernement ne peut que se situer dans la lignée de cette procession divine. Nous voyons donc que l'établissement de la voie véritable, de la voie des dieux, est pour Norinaga avant tout une affaire d'élagage. Il faut retourner à une simplicité, voire une nudité principielle qui s'ouvre entièrement au verbe divin de vérité, Makoto, terme primordial sur lequel nous devrons revenir. Il s'agit bien de la voie véritable, mais qui est véritable parce qu'elle procède d'un verbe réel. Ce verbe s'est déployé dans les saintes écritures, Mifumi, mais aussi dans la poésie et les grandes œuvres qui portent la poésie, et parmi elles, le roman du Genji, sur lequel nous reviendrons à partir de la semaine prochaine. Je vous remercie pour aujourd'hui.